C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
Nous serons amoureux, évidemment, le moins qu'on puisse, et pas toujours en silence, pénible, envahissant et indigne.
Regard intime.
Bonjour, bienvenue dans le second numéro de Regard intime. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Pauline Peyrade. Bonjour.
Bonjour.
Nous invitons Pauline Peyrade donc à propos de la parution de son livre Au solitaire intempestif contre l'X, suivi de Bois impériaux qui est paru le mois dernier. Donc Pauline Peyrade, je vais vous présenter rapidement pour que nos auditeurs puissent avoir une petite idée de qui vous êtes, sachant que c'est votre première pièce de théâtre publiée. Donc vous êtes une jeune dramaturge diplômée de l'ENSAT en 2015. L'ENSAT, qui est l'école de théâtre de la rue Blanche à Lyon. Vous êtes également instigatrice d'une revue théâtrale d'écriture qui s'appelle Le bruit du monde, dont on parlera aussi. Et concernant la pièce Contre l'X, elle va être mise en scène par Cyril Test au Théâtre Poche Genève en avril prochain. Donc tout d'abord, pour commencer cet entretien, j'aimerais qu'on parle de Contre l'X, qui, du point de vue dramaturgique, déborde vraiment d'innovation et montre un vrai travail de recherche dans l'écriture. En effet, dans les moments de l'histoire, aucun des personnages ne semble se rencontrer physiquement. Ils communiquent par d'autres médiateurs. C'est ça qui est très intéressant, que ce soit le téléphone, Internet, un interphone même. Et le personnage Ida, en parallèle de cela, se trouve dans une sorte de pérégrination sur Internet, dont on reparlera aussi, évidemment. Et je me demandais si le fait que les personnages ne soient pas proches, qu'ils parlent ou qu'ils s'écrivent à distance, pourrait être une manière pour vous de traduire notre monde moderne et la solitude numérique que ce monde pourrait engendrer.
Bah, il s'agit avant tout de la solitude d'Ida, en l'occurrence. J'avais envie d'un personnage seul chez elle, d'une nuit, une nuit d'errance hein, sur Internet, et de raconter un peu cette solitude peuplée, hein, comme on pourrait l'appeler. Donc je sais pas si, enfin tout ça pour dire que l'isolement, le fait que les personnages ne se parlent pas directement, vient essentiellement du fait de l'isolement d'Ida, du personnage principal. Après, ce que ça raconte, ce que ça peut raconter, je crois. Enfin, ce qui m'a intéressé en tout cas, c'est le rapport aux absents et au présent, face à ce rapport qui est presque inversé entre les absents qu'elle convoque, enfin les absents physiques, je veux dire, qu'elle convoque sur Internet, toutes ces voix, toutes ces figures qu'elle croise et qui deviennent plus présentes pour elle que les personnes physiquement présentes autour d'elle, donc à savoir sa sœur et son amant là, qui sont juste en bas de son immeuble quoi, et à qui elle parle directement. C'est ça qui m'intéressait en fait. Comment est-ce que les jeux de projection qu'elle se fait, comment ces fantasmes, comment les présences virtuelles deviennent plus physiques, plus concrètes en fait que des présences physiques.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que ce personnage rejette toute présence physique, même si elle les appelle
Là, ce serait faire une généralité. En l'occurrence, elle est en rejet des deux autres personnages parce que l'un d'entre eux est sa sœur qui s'inquiète, qui au début de l'histoire, en tout cas, semble très oppressante. Ensuite, on comprend qu'elle a peut-être des raisons de s'inquiéter, mais qui veille sur elle de manière comme ça, un peu insistante. Donc là, elle veut juste qu'on lui foute la paix, quoi. Et l'autre personnage, qui est le personnage de Laurent, donc, qui est son amant, qui est... au départ, je pense qu'elle est, plutôt avec lui. Elle est contente de l'avoir au téléphone, mais l'histoire de la pièce, c'est qu'elle en aime un autre. Donc la présence de Laurent, voilà, avec qui elle se console un peu, devient vite insupportable parce qu'elle rappelle l'absence de Pierre, donc l'autre personnage dont elle est amoureuse. Donc en l'occurrence, oui, elle les rejette parce que celui qu'elle veut n'est pas là. Et donc, ces deux présences-là la dérangent. Elle l'empêche de... Peut-être que ça rappelle le réel, ça lui rappelle son absence, alors que si elle est seule avec elle-même, seule avec sa tête, seule avec lui sur Internet, enfin avec les traces qu'elle a laissées sur Internet, elle peut le reconvoquer, alors que dès que les deux autres font irruption, il disparaît nécessairement.
Donc pour revenir justement sur le personnage de Pierre que vous évoquez, qui est justement l'absent, qui est constamment convoqué sur Internet, et qui est peut-être aussi l'objet de l'errance sur Internet, elle semble quand même, cette errance, elle est très intéressante parce que même si d'un côté on remarque que le personnage ouvre quelques pages comme ça un peu machinalement dans un rapport que l'on peut tous connaître à notre écran, que ce soit, il m'a semblé reconnaître Wikipédia, évidemment, YouTube peut-être, et il me semble quand même effectivement que ses recherches sont centrées autour de ce personnage de Pierre qui est à Damas, si j'ai bien compris la pièce dans l'histoire. Et donc, du coup, beaucoup de ses recherches sont centrées autour de Damas et de la guerre en Syrie, et notamment de la première partie de cette guerre, enfin de ce conflit qui n'était pas encore une guerre, hein, en 2012, entre les rebelles de l'ASL et l'armée loyaliste de Bachar al-Assad. Et donc, je me demandais justement ce personnage de Pierre K. Alors, il est photographe, visiblement, mais peut-être autre chose. En tout cas, peut-être que je n'ai pas très bien compris. Mais pourquoi avoir mis ce personnage à Damas? Qu'est-ce que ce conflit représente pour vous particulièrement?
Bien Pierre, donc pour vous répondre, Pierre est photoreporter, en effet. Et il s'avère que là, il est envoyé en Syrie. Effectivement, au moment où j'ai écrit la pièce, la situation n'était pas la même. D'ailleurs, c'est assez troublant de la... Quand on travaille en travaillant dessus, là même en répétition avec Cyril Test, d'entendre le décalage, de voir à quel point la situation évoluait, c'est assez, assez vertigineux. Pourquoi ? Parce que la question, du coup, c'est pourquoi à ce moment-là, Pierre s'est-il retrouvé en Syrie ? Je pense que c'est assez bêtement, j'ai envie de dire, une réalité qui me préoccupait. Donc je pense que c'est pour ça que plus ou moins consciemment je l'ai envoyé là-bas. Bon, il est photographe de guerre, donc c'était peut-être la première guerre qui me soit venue à l'esprit, et aussi peut-être pour ce que Damas représente, ou oui, représente toujours, représentait pour moi à l'époque, en termes de bassin de civilisation aussi. Pourquoi Damas en particulier, ce serait difficile d'y répondre avec précision, en réalité. Pourquoi Damas en particulier?
Mais c'est visiblement parce que vous avez été touché par les événements qui se déroulaient à l'époque, comme beaucoup de gens. La presse en parlait beaucoup à l'époque.
Et comment ne pas l'être? Après, ouais. il faut pas être malhonnête non plus. La pièce ne traite pas de la guerre en Syrie, donc ça serait malhonnête de ma part de dire que oui, ça serait instrumentaliser un conflit, et ça, il n'en est pas question. Après, le rapport, la place que tient la guerre dans l'économie de la pièce, je pense, est encore une autre question. C'est très troublant qu'elle, effectivement, elle est à la fois rattrapée par Internet, parce qu'elle sait qu'il est là-bas, et il y a des pop-up de live info qui apparaissent et qui parlent de la Syrie. Donc elle, évidemment, dès qu'elle voit écrit Syrie, dès qu'elle voit écrit Damas, elle ne pense pas au conflit, elle pense à lui. Et je pense que c'est aussi ce paradoxe-là qui m'intéressait. Qu'elle regarde des vidéos sur Damas, et que ce soit lui qu'elle cherche là-bas, qu'elle essaye de se rapprocher de lui. Donc qu'est-ce qu'elle lit dans ces... D'ailleurs, les images trop violentes, elle les zappe, elle préfère les images un peu plus... Il y a un reportage notamment sur le vélo qui est de plus en plus utilisé. Donc ça fait partie des reportages qui semblent très bizarres aujourd'hui, mais qui, à l'époque... encore était possible. Donc que quand elle voit Damas, elle, ce qui l'intéresse, c'est de voir ce que lui voit, de voir le paysage qu'il traverse tous les jours, d'essayer de se rapprocher de lui vraiment. Quoi. Le conflit n'a plus de sens pour elle. Vous voyez, on n'a pas du tout, nous, la même lecture de la présence de ce conflit-là dans le texte que elle. Elle, Ida, ne pense pas une seconde au conflit, je crois. C'est vraiment que lui, quoi. Et ça m'intéresse, ce trouble qu'il y a au niveau des informations, comment on les reçoit. C'est assez intéressant. Souvent, on entend les gens s'indigner sur... on va entendre beaucoup, sur les réseaux sociaux, on va avoir beaucoup de posts sur les migrants, par exemple, en ce moment. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour balancer un... regardez ce qui se passe au Nigeria, et tout le monde s'en fout. Pourquoi on ne parle que des migrants et pas de ci, et pas de ça? Et comment... est-ce qu'on réagirait différemment si ça se passait plus près de chez nous? Enfin, le rapport qu'on a à l'immédiateté des informations, est-ce qu'on projette dessus à notre endroit? Enfin, je crois qu'on a une illusion d'objectivité, en fait, là-dessus. On a une illusion de réception et de lecture objective, alors que c'est impossible, tout simplement. Et les photoreporters le rappellent aussi, Raymond Depardon en parle très bien. Il faut arrêter de croire que la photographie, même la photographie de guerre, est un témoignage ou un rapport objectif d'une réalité. Tout est subjectif. Vous voyez, je trouve que les réseaux sociaux posent cette question-là. Enfin, Internet pose cette question-là.
Et donc, pour revenir au personnage d'Ida, dont on apprend l'histoire comme ça par bribes au fur et à mesure de la pièce, moi, je voulais savoir quand même... Elle a quelque chose quand même d'un furor très, très puissant, une espèce de furor tragique et destructeur, jouissif, je ne sais pas trop quel terme donner, mais peut-être aussi ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que ce personnage d'Ida est un point de repère pour les autres personnages, ce qui pourrait te paraître paradoxal, puisque justement on a l'impression plutôt que les personnages, et notamment sa sœur Adèle, comme tu l'as dit, est constamment sur elle, mais que ce soit Adèle ou que ce soit Laurent, on a l'impression quand même qu'ils sont attachés à Ida d'une certaine manière. Alors peut-être une manière qui n'est pas très saine, en effet, mais je voulais avoir ton avis là-dessus.
Sur l'attachement des personnages à Ida ?
Oui.
Je suis bien sûre de bien comprendre ta question. Non, je ne crois pas que ça soit qu'ils soient attachés à elle de manière malsaine, je ne crois pas. Adèle se fait du souci, elle a des raisons de s'en faire. Ida est quand même... son trouble n'est pas nommé dans le texte parce que j'avais pas envie de l'épingler, que ça devienne une pièce sur la maniaco-dépression ou sur... c'est pas du tout ça qui m'intéressait, mais il est question au début de la pièce et tout au long de la pièce d'un médicament qu'elle a laissé chez elle et qu'Adèle la harcèle parce qu'elle veut lui rendre ça, elle veut lui rendre ses médocs, quoi, parce qu'elle se dit tu peux pas laisser chez moi, tu peux pas arrêter d'un seul coup un traitement dont on ne sait pas trop ce que c'est. À côté de ça, on voit bien que Ida est quand même pas mal borderline. Qu'est-ce qu'elle va chercher à réveiller? Quel sentiment elle va chercher à réveiller en ne prenant pas ce médoc et en plus en allant sur Internet comme ça? Donc je pense que l'inquiétude d'Adèle est réelle et elle est fondée. D'un autre côté, Laurent, voilà, il tombe sur une fille, il est un peu amoureux d'elle. Je pense que tous les deux l'aiment, en fait. Mais ne l'aime pas de manière, malsaine ou possessive. Pour moi, s'il y a quelque chose de, s'il y a un amour trouble, c'est celui qui liait Ida et Pierre. Elle dit dans le texte que le moment de leur rencontre, elle décrit le moment de leur rencontre où il l'a repérée dans la foule et il lui a demandé de s'arrêter pour pouvoir la prendre en photo. Et elle dit que ce qui l'a fait tomber amoureuse de lui, c'est qu'elle a eu l'impression qu'il a reconnu quelque chose en elle, qu'il a vu quelque chose en elle, qu'il l'a reconnue elle comme elle-même, qu'il l'a vue comme telle qu'elle était, telle qu'elle se voit, telle qu'elle se rêve. C'est extrêmement narcissique, ils ont un rapport extrêmement narcissique. Voilà, je crois que l'amour, je ne dirais pas dire pervers, le mot est fort, mais l'amour un peu... trouble et plutôt du côté d'Ida, en fait. Tu parlais de rejet tout à l'heure, il y a de ça. Elle rejette aussi cette affection qu'on lui donne très simplement. Elle aime Pierre, mais je pense qu'elle est aussi en manque d'un regard sur elle. Et je ne sais plus quelle partie de ta question m'a fait penser à la question du manque. Oui, tu parlais de furore, de cette pulsion qui l'habite. Oui, je pense que c'est quelqu'un en manque. On manque d'une personne, on manque d'un rapport, on manque d'un regard et qui en même temps joue à réveiller ce manque-là. Après, juste pour terminer sur la question de ce médicament qui tourne, j'ai pas voulu le... Il n'est pas nommé, donc pour les raisons que j'ai expliquées, mais aussi parce que on ne sait pas trop d'où vient ce trouble-là. Est-ce que c'est un état voilà, qui est le sien? Est-ce que ça vient de sa séparation? On ne sait pas trop. Et qu'est-ce qui l'a fait vriller? Parce que bon, elle vrille quand même de plus en plus au fur et à mesure de la pièce. Qu'est-ce qui l'a fait vriller? Est-ce que c'est l'errance ou est-ce que c'est l'alcool ou est-ce que c'est ce médicament qu'elle ne prend pas? En tout cas, elle joue avec le feu.
Donc pour en venir à la forme littéraire de la pièce, disons, on voit que l'écriture vraiment déploie un dispositif très intéressant, puisqu'il s'agit à certains moments de représenter des pages internet, des photos, des musiques, aussi des spams, enfin tout ce qu'il est possible de voir sur la toile. Et donc on l'imagine évidemment beaucoup mieux mis en scène. Mais moi, je voulais quand même vous demander, justement, on a dans la pièce, à beaucoup de moments, des morceaux d'adresses URL et autres langages informatiques que je ne connais pas forcément. Et donc, je me demandais vraiment si ces moments web font pour vous partie de l'écriture théâtrale. Est-ce que ça la complète ou est-ce que c'est un rejet de l'écriture théâtrale ?
Non, pour moi, ça fait intégralement partie de l'écriture, évidemment. Ouais, là, le projet formel, en tout cas, m'a beaucoup passionnée. Je me suis vraiment demandé comment faire de toute cette matière texte dans laquelle on baigne en permanence, par laquelle le monde vient à nous. Aussi, plus qu'on devient au monde, on a l'impression d'être relié au monde, enfin on l'est d'une certaine manière relié au monde par Internet. On a l'impression de pouvoir aller partout, mais en réalité c'est le monde qui vient à nous. C'est peut-être justement pour ça que c'est si trouble. Et du coup, comment toute cette matière texte, qui j'ai l'impression devient image aussi, j'ai interrogé le rapport à comment lire, comment est-ce qu'on lisait en fait cette matière texte-là, cette matière qui, à mon sens, devient image, comment faire une langue en fait, comment arriver à faire en sorte qu'on la lise à nouveau, comment y insuffler de l'émotion, comment y insuffler de la poésie, sans jugement. Du coup, il ne s'agit absolument pas de dénoncer Internet ou quoi, simplement de dire voilà, notre réalité aujourd'hui c'est ça, nos fictions c'est ça, donc c'est à partir de cette manière-là, de cette matière-là que j'ai envie de raconter cette fiction-là. Donc il y a un vrai travail qui est presque un travail poétique, hein, donc enfin, vraiment au sens brut du ouais, presque un côté art brut en fait du terme, de prendre ces matières et de se dire ok voilà comment les lire différemment, comment leur redonner un statut de langue en fait, c'est ça.
Oui, en effet, les personnages s'envoient des mails, des SMS, et vous parlez de poésie, de modulation poétique, du moins à propos de ces langages. Enfin, tu parles. Et moi, je me demandais quand même, enfin, si c'était un échange comme un autre, parce qu'on a, alors c'est peut-être des préjugés, des stéréotypes, mais on a quand même l'impression qu'Internet enferme. Et je me demandais vraiment si, au contraire, tout ça, enfin, ça ne fermait pas toute possibilité d'échange pour les personnages. Le fait qu'ils s'échangent par mail, par SMS, est-ce que ça les condamne pas à ne pas communiquer, à ne pas parler ?
Ça, je ne sais pas si Internet fait ça. Enfin, y a quand même dans la pièce une situation qui fait que la communication est difficile. Mais le postulat de, enfin, pour moi, le postulat de base est qu'il faut pas. J'ai pas du tout envie de porter de jugement sur les nouvelles technologies. Le postulat était même inverse, de dire on dit que les gens ne se rencontrent plus, que les nouveaux médias éloignent les gens, et j'avais plutôt envie de le prendre à l'envers, dire est-ce que c'est pas des nouveaux espaces d'intimité qui s'inventent, de nouveaux rapports qui se construisent. Pour moi, si vous voulez, l'émotion que ressent Ida en voyant Pierre sur Internet est réelle. Ce qu'on ressent en parlant à quelqu'un qu'on aime sur Skype est réel. Vous voyez, l'émotion est réelle. C'est une autre forme de communication, mais les émotions n'en sont pas moins réelles. Je crois qu'il faut... Parce qu'on a tendance à opposer réel et fiction, et à se dire ce qui n'est pas réel et de la fiction, donc n'existe pas, donc est factice, etc. Je pense que le virtuel se place entre le réel et la fiction, pas forcément à mi-chemin, mais c'est un autre rapport au monde qui rejoue le réel et qui rejoue la fiction, en fait. Et Ctrl-X, en cela, vient plutôt interroger ces nouveaux rapports que les condamner ou les célébrer.
Et donc, justement, pour revenir à tous ces personnages ne se rencontrent pas en vrai, dans la pièce, physiquement en tout cas. Et pourtant, quand on lit la pièce, on attendrait presque qu'ils se rencontrent. Mais ça n'arrive pas. On a vraiment l'impression d'une sorte de drame à distance qui se joue. Et il y a vraiment quelque chose d'une tristesse hystérique qui me semble vraiment imprégner l'univers de votre pièce. Et je me demandais vraiment de comment écrire, comment faire naître cet univers que, pour ma part, j'ai trouvé feutré, complètement angoissant. Et j'irais même peut-être jusqu'à dire, pas pour vous provoquer, mais vain aussi. J'ai l'impression que tout ça, c'était vain, dans cette recherche des personnages, de se parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez pensé les choses comme ça.
Ida cherche Pierre. Les tentatives de Laurent sont vaines, ça c'est sûr. Lui, c'est perdu d'avance. Adèle, elle, au final, Ida finit par la rappeler et ça se termine sur Adèle qui en chemin, quand même. Et peut-être que la recherche d'Ida est vaine, oui, très, très certainement. C'est aussi une pièce qui interroge l'impossibilité du deuil amoureux, justement à cause de cette mémoire sans cesse réactivée dans le présent, par Internet. Elle cherche Pierre en permanence, oui.
Et donc, faut-il interpréter la vie d'Ida comme un échec amoureux, sentimental, humain, ou justement comme une chose qui, pour elle, serait impossible à atteindre, désespérée?
Un petit peu des deux. Après, je pense qu'il faut interpréter l'histoire d'Ida cette nuit-là comme l'histoire d'Ida cette nuit-là. Sa pièce ne raconte pas la défaite de l'humanité. En tout cas, c'est vraiment pas le projet. Non, ça vient plutôt interroger un endroit d'habitation du monde, un endroit de rapport au monde, de ces solitudes qui semblent être notre quotidien, des solitudes urbaines essentiellement. On est à la fois hyper connecté et isolé, et surtout sur ce rapport à la simultanéité des informations et qu'est-ce qu'on en fait, et passer d'une émotion à l'autre, parfois en ressentir plusieurs émotions en même temps selon qu'on ouvre une page plus une pub qui nous arrive dessus, et comment est-ce qu'on évolue là-dedans et comment est-ce qu'on se ferait un chemin là-dedans et comment on vit aussi à travers ça. C'est plutôt ça que ça vient interroger, je crois.
D'accord. Et ce serait peut-être le sens, du coup, de l'écriture en fragments, parce que la pièce est construite, alors j'ai relevé le chiffre exact, 220 fragments, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
J'appelle ça des fragments.
Oui, des fragments, c'est ça.
Et du coup, ces fragments, c'est peut-être aussi, comme tu l'as dit, pour montrer le passage d'une émotion à une autre. Ou comment est-ce que... Pourquoi cette écriture fragmentaire? Ça, c'est très intéressant aussi dans la pièce.
Ouais, alors que la pièce est extrêmement linéaire, hein, c'est quasiment un plan séquence, mais fragmenté, comme s'il y avait des cuts, si on parlait en langage cinématographique, des cuts tout le temps. Il y a plusieurs raisons à ça. Effectivement, pour permettre la simultanéité, de dire voilà, un fragment peut arriver en même temps qu'un autre, parce que très concrètement, dans la situation réaliste, elle peut lancer une vidéo et une musique en même temps, mais je ne peux pas avoir les. Il faut que je les mette dans l'ordre sur la page et que ça soit lisible. Du coup, il a bien fallu les ordonner. Et aussi pour ne pour laisser un comment dire pour ne pas imposer de temporalité là-dedans. C'est-à-dire que chaque fragment peut durer plus ou moins longtemps. Comme c'est une errance, en fait, ça, pour troubler le rapport au temps aussi, pour qu'on rentre aussi dans son rapport à sa temporalité. C'est-à-dire plus du tout une temporalité concrète ou linéaire, mais quelque chose de complètement éclaté. Parce que d'une fraction de seconde, elle passe d'un espace à l'autre, d'une émotion à l'autre. Et parfois, elle revient à elle en allumant sa cigarette, en croquant ses M&M's, tout ça. Voilà, c'était plus pour raconter, pour rendre compte de cette... de cet éclatement, en fait, qui est aussi sensoriel, émotionnel, presque intellectuel aussi, en tout cas psychique, qu'elle ressent, elle. Voilà. C'est un peu un mapping de sa tête, quoi.
Alors, avant de parler de Bois impériaux, tu vas nous faire une petite lecture d'un extrait de Contrôle X.
Du début, oui.
Du début.
Ida allume une cigarette. 2. L'œil qui lui, 13 minutes 52. Otis Toole. J'adore le feu, les incendies sur 3 étages. Parfois je rêve et je me dis, mince, j'aimerais tant voir un feu haut de 4 ou 5 étages, tout là-haut, dépassant les immeubles. Je prendrais mon pied. 3. Le portable vibre. Ida lit un texto. Laurent, tu m'as vidé sauvage. 4. Ida sourit, envoie un texto. Oh, petite nature. Smiley content. 5. Jack l'éventreur, son vrai visage. 8 secondes, Franck Ferrand. Ce soir, enfin, on va peut-être connaître l'identité de l'assassin. Qui était Jack l'Éventreur ? Un nom, ou plutôt un surnom, qui évoque le piège, le sang, l'acharnement sadique contre des femmes sans défense. 6. Le portable vibre. Ida lit un texto. Laurent, tu me cherches ? T'en veux encore ? 7. Ida sourit. Envoie un texto. Doucement, papy, t'affole pas. 8. Jack l'éventreur, son vrai visage. 21 secondes. Franck Ferrand. L'éventreur n'aurait fait que 5 victimes, mais il doit sa célébrité à la sauvagerie de ses corps dépecés, lacérés et installés dans des mises en scène monstrueuses. 9. Le portable vibre. Laurent. Pétasse. Smiley content. 10. Ida rigole. 11. Tom Waits, Dead and Lovely, version studio. La musique commence. Douze. Ida ouvre une bouteille de vin, se sert un verre, boit une gorgée.
Class girl, she wasn't over her head. She thought she could stand up in the deep end. He had a bulletproof smile. He had money to burn. She thought she had the moon in her pocket, but now she's dead. She's so dead, forever dead and lonely now. I've always been told to remember. See you.
to impress. He knew everyone's secrets. He wore her on his arm just like jewelry. He never gave what he got. He kept her on a leash. He's not the kind of wheel you'd fall asleep at. But now she's dead. Look deeper, you're falling fast, just like a plane on a stormy sea. She made up someone to be, she made up somewhere to be from. This is one business in the world where there's no problem at all. Everything that is left, they will only plow under. Soon everyone you knew will be gone. And now she's dead.
Donc la seconde pièce du livre s'appelle Bois impériaux. Donc il s'agit aussi d'une pérégrination, donc décidément. Mais cette fois-ci, c'est pas sur Internet, c'est sur une autoroute. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le trajet, c'est assez drôle de reconnaître le nom des aires de station, enfin des aires de péage, enfin et des panneaux même touristiques ou indicateurs des villes. Et donc on a dans une voiture deux personnages, un frère et une sœur, qui font un chemin quelque peu mystérieux pour se rendre dans un lieu inconnu, en tout cas dont on n'a pas connaissance dans la lecture, tandis qu'un autre tableau semble s'imbriquer et dérouler un échange entre Irina, donc qui est la sœur, et un pompiste nocturne, si je puis dire, dans une aire d'autoroute. Et donc cette seconde scène semble avoir lieu visiblement après et pendant la scène centrale du voyage en voiture entre le frère et la sœur, mais là encore je ne suis pas très sûr. Et donc là encore, pour commencer sur cette pièce, en paratexte, avant que la pièce ne commence, Il est question pour vous, dans cette pièce, d'une réécriture lointaine d'Hansel et Gretel. Et moi, je me demandais pourquoi s'être intéressé à ce conte et surtout pourquoi l'avoir choisi et en faire ce que vous en faites dans la pièce, c'est-à-dire presque une réécriture lointaine. Qu'est-ce que c'est une réécriture lointaine d'Hansel et Gretel pour vous ?
J'ai pas du tout choisi Hansel et Gretel, en fait. Je me suis rendu compte en écrivant la pièce que j'étais en train de réécrire Hansel et Gretel. C'était absolument pas volontaire. Donc ça a été très drôle, en réalité, de voir le tour que l'inconscient me jouait à cet endroit-là. Parce qu'effectivement, j'avais ce frère et cette sœur, donc Irina, comme tu l'as dit, et Johannes, son frère. Dans cette voiture, perdue sur l'autoroute. Ce qui m'intéressait dans les panneaux, dans les noms des aires d'autoroute et dans les panneaux, effectivement, les panneaux touristiques, donc qui montrent les villes médiévales, tout ça, c'est l'ouverture sur le rêve que ça peut provoquer. Du coup, j'étais déjà dans un truc un peu fantastique, quoi, qui rappelait un peu l'enfance. Et puis, j'avais effectivement cette scène dans la station-service qui se passe à la fin, pour moi, à la fin du trajet. Même si on la découvre petit à petit et avant, mais elle intervient à la fin du trajet. où Irina se trouve devant le stand, enfin le rayon confiserie de la station service. Et c'est en constatant ça que je me suis dit, bah en fait, c'est Hansel et Gretel. J'ai la maison en pain d'épices et la traversée de la forêt la nuit, quoi. Donc c'était pas du tout volontaire. Après, ça m'a aidé, je crois, à structurer le texte. Une fois que j'en ai pris conscience, évidemment, pour justement creuser la question de la forêt du conte, ce qu'elle représente. Des forêts aujourd'hui aussi, c'est quelque chose d'assez fascinant. Quand on passe sur l'autoroute de jour, pour le coup, parce qu'ils sont sur l'autoroute la nuit, donc ils voient les panneaux qui apparaissent comme ça, qui sont pris dans les phares et qui disparaissent. Mais quand on voit en journée ces morceaux de forêt découpés géométriquement, on se rend compte qu'il n'y a plus aucun rêve à projeter là-dessus. Enfin, on ne peut plus y voir des sorcières ou des ogres comme on pouvait le faire étant enfant, ou comme on peut encore le faire, je crois, devant les forêts sauvages. Ça interroge le paysage notre paysage qui se transforme, et l'espace du rêve, de l'imaginaire et donc de la liberté, en fait, hein, qui est peu à peu décimé. Et donc, partant de là, un petit peu comme dans Contrôle X, j'ai eu envie de dire, et s'il y avait poésie dans ces matières textes extrêmement triviales, même virtuelles, est-ce qu'elle serait dans nos paysages, les nouveaux espaces de rêve, ou est-ce comment peut-on rêver là-dedans, quoi ? Et c'est pour ça que les panneaux des aires d'autoroute, Bois Impériaux est une aire d'autoroute, c'est quand même assez magique comme nom, Bois Impériaux, je trouve. Enfin...
Et oui, d'ailleurs, c'est très très drôle, puisque quand on tape Bois Impériaux sur Google aujourd'hui, ben on a la vraie aire et on a la vraie... Ouais. Et c'est très drôle d'avoir pris ce nom pour la pièce. Et en même temps, il y a quelque chose de mythique aussi, non, dans ce rapport de l'homme, des personnages dans la voiture, sur la route. On ne sait pas bien ce qu'ils vont faire.
Oui, on le comprend au fur et à mesure. Irina emmène son frère comme ça, un peu à moitié, de manière à moitié improvisée, dans un centre de désintoxication. Il est à moitié au courant, c'est pas tout à fait officiel, parce que bon, il se laisserait pas faire si... Il vaut mieux que tout reste tacite, en fait, même si je pense qu'il a plus ou moins compris dès le départ. Et en fait, alors que les deux étaient pris dans une situation un peu insoutenable chez eux, d'un seul coup, là, ils y mettent fin, ils partent. Et la traversée de cette forêt, et surtout pour elle, et pour lui aussi d'ailleurs, c'est... La forêt du conte, c'est l'endroit où on va au bout de soi-même, dans ce qu'on a de plus noir. Et c'est cette question-là que je me suis posée avec eux, au plus noir d'eux-mêmes, indépendamment, mais aussi ensemble, dans la relation un peu d'interdépendance, pour le coup plus malsaine, hein, que celle d'Ida et Adèle dans Contrôle X. On peut voir un prolongement, il y a beaucoup de thématiques communes dans ces... Notamment le rapport frère-sœur, hein, ou sœur-sœur, dans ces deux pièces, mais je crois que celui d'Irina et Johannes est plus violent, plus interdépendant, plus trouble que celui d'Adèle et Ida, qui est moins dangereux, je crois.
Et oui, donc pour les personnages de Bois Impériaux, et notamment bah, le frère et la sœur dont vous venez de parler, justement, tout comme dans Contrôle X, semble parler, il me semble, à partir d'une pensée à vif, écorchée même, quelque chose d'une certaine manière qui à chaque fois révèle leur fragilité et peut-être même aussi leur inappétence pour la vie. Et moi justement, voilà, je me demandais comment vous avez travaillé cet aspect dans les dialogues, cette espèce d'urgence mélancolique de dire à chaque fois, qui fait que les personnages communiquent entre eux dans Bois Impériaux, mais même parfois et même peut-être tout au long de la pièce pour ne rien dire vraiment. Enfin...
Ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement lié au fait qu'ils soient frères et sœurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme d'inappétence. Je crois que c'est des personnages qui se battent. Ida se bat, c'est sûr. Elle se bat pour retrouver quelque chose qu'elle a perdu. Donc il y a un réel désir. Le désir est là, d'ailleurs, pour Irina, Irina de Bois Impériaux, qui, en plus de ça... fait la pute au téléphone et va se jeter dans les bras du pompiste. Il y a vraiment une question du désir très forte qui est là. Donc l'inappétence, je ne suis pas trop d'accord avec ce terme-là. Au contraire, je pense qu'ils sont habités d'un appétit un peu boulimique ou dévorateur. Mais pour ce qui est de la question de l'urgence du rapport entre, enfin, de l'urgence du dialogue, pardon, et du rapport entre Irina et Johannes, le fait qu'ils soient frères et sœurs ouvre encore plus le champ de l'implicite, c'est-à-dire que ils se comprennent. Tout ce qui, chaque phrase est chargée bien plus que, enfin, plus une relation est longue, plus ce qu'on dit est miné. Alors entre deux personnes, un frère et une sœur, deux personnes qui ont grandi ensemble. Enfin, je ne sais pas si vous avez un frère ou si vous avez une sœur, mais je pense que la chose, ce que je raconte, est assez évident dès lors qu'on a un frère ou une sœur. Il y a quelque chose de tragique là-dedans, c'est vrai. C'est pas tellement sur, enfin, c'est une manière de difficulté de communiquer qui est telle que même en se disant des choses, parfois on passe à côté. Et le problème d'Irina, c'est qu'elle ne parle pas. C'est qu'elle est dans une posture de, un peu comme Adèle dans Contrôle X, de, un peu maternelle, un peu maternante. Elle, bon là, pour le coup, elle a aussi des raisons de s'inquiéter, où elle veille sur Johannes. Et de la même manière, elle le dit à un moment qu'elle n'écoute pas ce que les clients lui disent au téléphone, qu'elle ne fait que répéter mécaniquement pour les satisfaire. Donc elle ne se laisse pas atteindre par ça. De la même manière, son frère, qui le mal-être de son frère, elle s'en protège en l'écoutant peu ou en l'écoutant pas. Elle répète d'accord, d'accord, d'accord. C'est là que c'est tragique, parce que lui, ce dont il a besoin, c'est d'être entendu. Son drame à lui, c'est qu'elle ne l'écoute pas, mais elle ne peut pas ouvrir cette porte-là, parce que Johannes peut être dévastateur dans son mal-être pour elle. Et du coup, je crois que l'étrangeté de ces dialogues vient de là. Oui. Je ne sais pas si ça répond pour l'urgence. Peut-être le sentiment que quelque chose dans leur rapport touche à sa fin. Peut-être. Mais j'ai pas tellement le sentiment qu'il y ait de l'urgence dans ce qu'ils se disent, en fait. Pas vraiment. J'ai l'impression d'une urgence qui tourne en boucle. D'une nécessité à vif, c'est vrai, de défaire un nœud qui ne se défait pas, qu'on n'arrive pas à défaire. Mais est-ce qu'on peut parler de peut-être, oui, une urgence qui tourne en boucle à ce moment-là, ouais.
Et pour revenir à une autre dimension de la pièce, alors on a les indications routières, mais on a aussi le tableau de bord, avec quelques données du tableau de bord qui nous sont données. Alors il me semble le kilométrage.
Les kilomètres qui défilent, la vitesse, la température extérieure et l'heure. Ouais.
Comment l'interpréter ? Est-ce que c'est Irina qui lit en conduisant ? Est-ce que c'est pour indiquer au spectateur ?
Ça indique davantage au spectateur. En fait, la pièce est aussi construite en fragments. Chaque fragment est annoncé par le compteur. Enfin, le compteur, j'aime bien ce mot, le compteur. C'est à la fois celui qui compte, mais aussi le compteur qui défile. Et c'est vrai que... Enfin, moi, ce que je me suis raconté, voilà, hein, c'est que c'était aussi un peu des indicateurs émotionnels. Quand est-ce qu'elle accélère, quand est-ce qu'elle freine. Et surtout, ce que je me suis. La question de départ était comment rendre compte, comment faire en sorte que la situation dans laquelle il se trouve, donc dans une voiture, la nuit, à une certaine vitesse, dans cet environnement-là, comment ça va influencer le dialogue. On ne parle pas de la même manière autour d'une table que dans une voiture. Et du coup, quel rapport au temps ça donne aussi ? Il y a une temporalité très irréaliste aussi. On perd un peu la notion du temps dans ces voyages-là. Donc c'est cet endroit-là que ça vient travailler. Le découpage du dialogue avec ces ellipses parfois de plusieurs minutes, alors que le dialogue se suit quasiment, mais le compteur nous dit que 3 minutes sont passées. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce silence de 3 minutes où on reprend la conversation exactement là où on l'avait laissée ? Vous voyez ? Et j'aimais bien, pour la température, ce froid qui les enserre peu à peu, enfin ces dixièmes de degrés qui descendent peu à peu, comme du givre, comme ça, qui se renferme autour d'eux. Je sais pas, ça me parlait, quoi.
Et donc, j'aimerais qu'on revienne au personnage d'Irina. Alors, tu as parlé du fait que... Tu l'as dit trivialement qu'elle faisait la pute au téléphone, ou même son rapport au propiste. Alors voilà, cette espèce de condensation...
Gérant de station-service, je ne sais plus, pompiste, c'est un mot affreux.
c'est le mot à l'ancienne, j'aime bien. Mais disons que c'est cette espèce de condensation sexuelle, j'appelle ça comme ça, hein, c'est peut-être un peu trop mécanique, mais dont elle a besoin... Qu'est-ce qu'elle signifie exactement ?
Elle n'a pas besoin de... Enfin, quand elle fait la pute au téléphone, concrètement, ça ne...
Mais ce n'est pas un besoin.
Oui, voilà. Enfin, c'est un job. D'ailleurs, elle le fait de manière très distanciée. Après, ce que ça raconte des situations dans lesquelles elle se met, ça raconterait plus quelque chose du rapport à elle-même ou de ce qu'elle fait, de ce qu'elle se fait subir. C'est plutôt là, plutôt que dans un... Il n'y a pas tellement de désir, ça joue moins. Enfin, il y a le désir des hommes, mais pas tellement le sien. Le sien est totalement annulé dans ces conversations téléphoniques. En revanche, avec Serge, donc le gérant de la station-service, dans laquelle elle reste comme ça, de manière un peu... parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'à la fin du voyage, enfin, il y a... Tout du long, pendant tout le voyage, il y a ce médicament qui est là, cette boîte de comprimés qui tourne dans les mains d'Johannes. C'est elle qui l'a apporté pour le calmer éventuellement si jamais il s'énerve. En même temps, elle sait très bien le risque qu'elle a pris en emmenant des médicaments dans la voiture, en lui laissant entre les mains. Donc lui, il finit par les avaler, on ne sait pas trop ce que c'est. Et elle... le laisse dans la voiture et préfère ne pas y retourner, un peu comme on laisse le chat de Schrödinger dans sa boîte, préfère pas trop savoir s'il est vivant ou s'il est mort, ça peut l'arranger qu'il soit mort, même si c'est impossible pour elle de se l'avouer, ça la libérerait, en même temps ça l'anéantirait évidemment. Du coup elle reste avec ce type dans cette station service pour gagner du temps, quoi, pour ne pas faire le constat de ce qui s'est passé, quoi. Et elle finit par le provoquer et se jeter dans ses bras. Il y a presque une pulsion de mort là-dedans, hein, qui est proche de celle de Johannes, hein, qui avale les comprimés. Et aussi, est-ce que c'est pour la punir ? C'est pas pour rien qu'il fait ça devant elle. Enfin, tout ça est extrêmement trouble et assez pervers à plusieurs endroits. Après, pervers est un mot fort et je veux pas les juger, hein, vraiment pas.
Vous n'aimez pas ce mot ?
Non, j'aime pas ce mot. Non, je le trouve très dur et il faut l'employer à bon escient et enfin bon, je trouve ça très réducteur, j'ai pas envie de juger les personnages, je crois qu'on est souvent habité de plus que de la simple perversion, en fait. Il y a des gestes un peu pervers, mais un geste n'est pas seulement pervers, vous voyez. Donc c'est pour ça que je me méfie de ce terme, on a vite fait de cataloguer les personnages là-dedans. Mais du coup, pour en revenir à Irina et à cette fin là qu'elle se donne,
j'avais pas l'intention de révéler la fin.
Non, 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 mais bon, qu'elle se jette dans les bras de... Là, je le dis gentiment, qu'elle se jette dans ses bras, elle se laisse prendre par Serge, ça dépend comment on le prend, parce que c'est quand même assez cru, là, de la façon dont ça se passe. Est-ce que c'est aussi peut-être pour un besoin de... Ça peut aussi être un besoin d'étreinte, qui dans ce cas-là serait très humain. Surtout avec la nuit qu'elle a traversée, et en même temps qui est très humiliant pour elle. Donc est-ce que c'est pour se punir de ce qu'elle a laissé faire ? C'est trouble. En réalité, c'est trouble. Et ça peut se justifier à plein d'endroits. Et c'est ça qui m'intéresse, je crois. C'est ce côté trouble, les passages à l'acte un peu fou comme ça. Ça vient toujours de plein d'endroits différents. C'est très difficile d'identifier d'où vient comme ça un passage à l'acte radical.
Mais justement, c'est une manière de raconter la matière sexuelle, qui me semble vraiment être un élément central de Bois Impériaux et de Contrôle X, mais sans érotisme, il me semble, sans artifice non plus. En tout cas, enfin, il me semble encore, hein, évidemment. Mais moi, je me demandais quand même, pour aller un peu plus loin sur cette thématique. Est-ce que le sexe, ou disons l'amour, dans ce qu'il aurait de plus possessif, de plus étreignant. Vous avez parlé d'étreinte. Est-ce que c'est une manière pour les personnages, notamment pour Irina, le fait qu'elle se donne à Serge, tout ça, est-ce que c'est une manière pour elle d'exister aussi? Parce que vous parlez de pulsion de mort, mais il me semble qu'il y a tout un jeu entre eux quand même qui se déroule au long de la pièce. Et,
non, je souris parce qu'on a l'impression que les deux pièces ne parlent que de cul, ce qui n'est pas tout à fait le cas, même si bon, c'est présent, mais c'est pas tout à fait le cas. Par contre, dans la question de l'amour possessif, est intéressante. Effectivement, je pense que ça peut être un endroit de se sentir possédé par l'autre, d'exister pour l'autre, de se sentir nécessaire, indispensable à l'autre. Ça leur permet de se sentir exister. Ça leur permet aussi de s'anéantir. Donc, c'est aussi une manière de s'annuler. C'est un peu des deux, quoi. C'est exister d'une certaine manière. Et cesser d'exister pour soi aussi. Mais c'est vrai qu'on est dans des rapports de possession ouais, dans les deux pièces, c'est vrai.
Et justement, alors là, je vais peut-être aller un peu loin, mais est-ce que ce ne serait pas là pour vous une manière de faire une sorte, je dis bien une sorte, hein, de critique sociologique des rapports sexuels entre les êtres et de l'amour dans tout ce qu'il a ou ce qu'il aurait de plus faux? Si tant est que le vrai amour puisse exister quelque part.
Je ne porte pas de jugement sur une sexualité ou sur une autre, ou sur un rapport de...
Non, mais disons que c'est pas forcément une question de jugement, mais c'est plutôt une question de pulsion. La pulsion sexuelle dans notre société, la manière dont les êtres peuvent la saisir. Est-ce que cette pulsion qui est bien présente chez tous les personnages, moi il m'a semblé quand même que ça pouvait critiquer quelque chose de manière générale des rapports sexuels entre les gens, quels qu'ils soient, dans le couple ou dans le non-couple.
Oui et non. Non. La question de la pulsion effectivement vient interroger quelque chose. Je ne me préoccupe pas du tout de critiquer les rapports sexuels entre les gens. Ça ne me regarde pas, j'ai pas d'avis là-dessus, si vous voulez. En revanche, la question de la pulsion, je préfère le terme interroger à critiquer encore, hein, parce que
interroger.
Oui, non, mais c'est pas par bien-pensance ou par langue de bois, je dis ça, c'est que je serais quand même extrêmement mal placée pour. On baigne tous là-dedans, quoi. Donc, je suis pas là pour être juge ou faire la morale à qui que ce soit. Je serais vraiment extrêmement mal placée pour ça. Et j'ai pas du tout envie de le faire. En revanche, que ça peut interroger des rapports pulsionnels qu'on peut avoir aux choses dans notre société. Oui, peut-être, effectivement, du fait qu'on est sans arrêt sollicité. Donc quand on dit qu'il y a ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Il y a un érotisme, là-dessus je suis d'accord. Il y a un érotisme là-dedans, dans la sollicitation permanente d'Internet, dans les pulsions que ça vient réveiller. On devient des machines à pulsions, en fait, un peu aveugles, sollicitées constamment à des endroits primaires. Là-dessus, oui, ça vient, ça interroge notre liberté vis-à-vis de ça. Après, dans les rapports amoureux, la conséquence que ça peut avoir sur les rapports amoureux, je pense que non, je peux pas répondre à cette question sans faire de généralité. Donc,
mais c'est justement ça l'intérêt de l'œuvre, c'est qu'elle ne fait pas de généralité, il faut le préciser aussi. Il y a quelque chose d'inexpliqué, d'inexplicable aussi.
Oui, puis de singulier. Enfin, il s'agit de situations particulières. Bon, même si ça fait ringard de dire personnage, je suis désolée, c'est quand même des personnages un peu particuliers avec, dans une situation, dans un contexte, dans une histoire, à un moment en plus. Les deux se passent en une nuit, donc c'est vraiment des petites tranches comme ça. On ne peut pas tout expliquer, tout raconter d'eux sur ces petites tranches-là. Petite tranche de vie là, après c'est des moments choisis, hein, puisqu'ils viennent bousculer quelque chose ou révéler quelque chose d'eux-mêmes ou de leur rapport au monde. Oui, non, parce que voilà, tu disais que ça faisait pas de généralité, oui, et pour cause, moi ça m'intéresse pas du tout. Hein, je suis allergique à toute forme de moralisme, donc j'ai pas du tout, du tout envie d'en faire et je crois pas que les pièces, ni l'une ni l'autre, en face, tombent dans des postures moralisatrices, non, non.
Donc on va cesser de parler des pièces et on va parler, pour terminer, de la revue Le Bruit du Monde. Donc tu as créé, si mes souvenirs sont bons, en 2012,
c'est ça.
Ton entrée à l'ENSAT.
Juste avant.
Est-ce que tu pourrais nous décrire son fonctionnement et ce pourquoi elle existe, rapidement, hein, bien sûr, pour peut-être donner envie aux gens qui nous écoutent peut-être de contribuer à cette revue puisque,
Tout à fait. Alors, Le Bruit du Monde, donc créé en 2012, c'est une revue d'art et d'essai, essentiellement plutôt théâtrale, hein, qui est consacrée aux écritures émergentes. C'est une revue qui est annuelle et on fait un appel à texte, donc tous les ans, un appel à texte tous les ans, autour de thématiques de société. Parce que la question, l'enjeu de la revue est d'affirmer la nécessité des écritures théâtrales dans ce qu'elles racontent du monde, dans ce qu'elles interrogent, dans la place qu'elles prennent dans le monde actuel, dans la place politique et poétique qu'elles tiennent dans la cité, quoi, dans nos sociétés. Donc le parti pris est aussi de prendre uniquement des auteurs émergents. Voilà, c'est un parti pris pour faire entendre de nouvelles voix aussi. Et du coup, on fait cet appel à texte. On laisse 10 mois à peu près, assez conséquent l'appel à texte. On développe bien notre pensée. C'est un peu le point de départ du débat, puisque c'est comme ça qu'on conçoit la revue, comme un espace de débat. On laisse un peu moins d'un an aux auteurs pour nous envoyer des textes. On en discute ensuite entre nous. On fait des retours à tous les auteurs. Et on en choisit entre 3 et 6, ça dépend des numéros, ça dépend de nos envies, des textes qui nous ont le plus étonnés, percutés, interrogés. Et les textes sont donc publiés avec des articles de fond sur la thématique, un dossier consacré à un artiste peintre ou photographe ou illustrateur, on a l'illustrateur de BD là, pour le dernier, pour le quatrième qui sort à l'automne. Le tout est un dossier consacré à un auteur étranger, donc à une traduction, pour présenter un autre contexte d'écriture, un autre contexte politique et artistique d'écriture. Les piliers un peu de la revue sont l'émergence et l'engagement. C'est vraiment ce qui nous occupe et ce qu'on interroge d'un numéro à l'autre à travers des thématiques qui sont des thématiques de société. Donc on a fait prise de parole, nous sommes tous des enfants d'immigrés, amour 2.0. On prépare Censurer en ce moment et l'appel à texte, donc qui est ouvert jusqu'au 26 août, si je ne dis pas de bêtises. Il s'appelle De l'espoir, donc le cinquième numéro, qui est prévu pour 2017 et qui traitera de la question de l'espoir. Voilà.
De toute manière, nos auditeurs retrouveront dans la page internet le lien vers cette revue. Alors j'aurais une dernière question à te poser, c'est savoir comment va se passer l'avenir pour toi, après une première pièce comme ça, alors qui, pour le coup, n'a pas encore été mise en scène. Donc, beaucoup de gens ne l'ont peut-être pas découvert. Beaucoup de gens la découvriront sans doute de manière massive, enfin, plus massivement, disons, à sa mise en scène et à sa tournée. Mais disons que voilà, quels sont tes futurs projets
Oui, comme tu dis, donc les répétitions de Contrôle X ont lieu en ce moment. Donc pour la première et pour bientôt. À côté de ça, je poursuis un sujet à vif que j'avais fait à Avignon avec Justine Bertillot. On est en train de fonder une compagnie, on continue à travailler ensemble, donc à poursuivre ce projet-là qui s'appelle Point, P-O-I-N-G-S. Donc ça, c'est un projet qui m'occupe pas mal. À côté de ça... je suis artiste associée, enfin auteur associé au CDN de Montluçon, donc je vais intervenir là-bas, voir, c'est pareil, c'est des choses qui se dessinent, hein, comment je vais investir ce lieu, ce qu'on va y faire, tout ça, ça se dessine. D'autres textes aussi, en projet, dans ma tête, plus ou moins. Et puis, des interventions en école aussi, ça, je suis très très heureuse de commencer à l'ENSAT, à l'École du Nord. À intervenir dans les départements d'écriture, parce que l'accompagnement des auteurs est quelque chose qu'on fait dans la revue, hein, et que j'ai appris à l'ENSAT et qui est extrêmement important, je crois, Donc voilà, pour la suite donc de l'écriture, un projet de plateau, des ateliers, des interventions. Voilà.
Très bien. Donc je rappelle aux auditeurs donc le livre, votre premier livre, hein, on ne peut pas dire votre dernier livre, même si c'est votre premier et votre dernier, en termes de... Enfin, le dernier dans le sens journalistique, quand on invite quelqu'un, on dit « Ah, c'est votre dernier livre !» Donc c'est votre premier livre, donc « Contrôlique, suivi de Bois impériaux au solitaire intempestif », qui est donc une maison d'édition théâtrale à Besançon. Merci à toi d'être venu.
Merci à toi.
À Transistor. Donc on remercie Léo, hein, à la régie, hein,
merci,
dont
Léo.
On n'a pas entendu la voix, mais qui était bien là pour nous seconder. Voilà. Merci à tous. Donc c'était Regard Intime.
C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
Nous serons amoureux, évidemment, le moins qu'on puisse, et pas toujours en silence, pénible, envahissant et indigne.
Regard intime.